Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion. Des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour, pour ce nouveau numéro d'Antidote, je vous propose aujourd'hui une réflexion autour du conflit. Et je me suis basée sur un ouvrage qui est sorti en 2006 sous le titre « Éloge du conflit ». Il est sorti aux éditions de La Découverte. C'est un ouvrage écrit par Miguel Medasayag et Angélique Del Rey. Alors Miguel Medasayag, il est assez connu, c'est un philosophe et psychanalyste. Et il est l'auteur de différents ouvrages, je ne citerai pas tous, mais il y a notamment Le mythe de l'individu en 1998 et La fragilité en 2004. Et il a écrit également deux ouvrages en collaboration avec Florence Aubenas, La fabrication de l'information et Résister, c'est créer. Et Angélique Del Rey est professeure de philosophie et donc ils ont écrit cet ouvrage sur le conflit. Et je voudrais vous lire en introduction la manière dont ils présentent justement ce questionnement qu'ils ont. Alors je vous lis un premier petit extrait. Héritier d'une époque qui a longtemps cru à la possibilité d'en finir un jour avec le conflit, nous sommes aujourd'hui pour cette même raison effrayés face à tous ceux qui menacent nos vies et nos sociétés. Nous pensions aller vers des territoires pacifiés et voilà que s'impose l'idée de vivre un retour des conflits, individuels comme sociaux, sous des formes sinistres voire barbares. Sans doute a-t-on trop pensé le conflit en termes de son dépassement vers la solution, les conflits étant surtout conçus comme un moyen vers la fin, un moment difficile qu'il fallait dépasser. Alors il pose la question suivante, la question qui se pose désormais à nous pourrait être formulée ainsi. Comment penser les termes d'un conflit autrement que dans la recherche de son dépassement? Comment penser la permanence du conflit? Voilà la question centrale de cet ouvrage. Et ils vont donc la développer pendant tous les différents chapitres. La première partie de l'ouvrage dresse ce qu'ils appellent un paysage des conflits. Et tout d'abord, ils nous parlent du traitement des conflits en démocratie. Et je vous cite de nouveau l'introduction de ce premier chapitre. La démocratie est devenue aujourd'hui la forme exemplaire du bon gouvernement. Un pays qui accède à la démocratie connaîtrait une forme politique qui, sans être nécessairement parfaite, serait du moins la meilleure possible, ou pour les plus critiques, la moins mauvaise. De ce point de vue, partagé par nombre de nos contemporains, la démocratie serait censée parvenir à maintenir les conflits dans des limites raisonnables. Mais les auteurs nous précisent que ce que l'on tolère en matière de rivalité dans nos démocraties contemporaines a peu à voir avec de véritables conflits. Et ils nous disent qu'à la suite de Marx, ils pensent que la démocratie développe un certain formatage de l'être humain, caractérisé justement par le refoulement des conflits qui le traversent, voire qui le constituent. Ils vont nous donner comme exemple l'exemple de la question du débat démocratique. Vous savez, ces fameux débats qui sont présents un petit peu partout, dans les lieux publics, etc., ce qu'on nous appelle le débat démocratique. Alors ils nous disent, loin d'être exempt de contraintes, un débat ne sera considéré comme démocratique qu'à condition d'être contradictoire, d'avoir tous les avis au sein du même débat. En effet, dans le supermarché des idées, les consommateurs d'opinion doivent être libres de choisir l'opinion qui leur conviendra le mieux. Et quoi de mieux que la contradiction pour nous laisser cette liberté? Mais selon quels critères choisirons-nous? La simple opposition ne peut en effet suffire à peser sur notre choix. Pourquoi irions-nous d'un côté plutôt que de l'autre? L'un des principes sacrés du débat contradictoire étant de supprimer au maximum les facteurs susceptibles de faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Auquel cas, la sacro-sainte liberté d'opinion du citoyen risquerait d'être mise en cause. On assistera donc bien souvent à une opposition stérile, d'opinion n'exprimant aucun point de vue concret, sans aucune chance de s'influencer réciproquement. Dans une telle position abstraite, conforme au principe démocratique selon lequel toutes les opinions se valent, le conflit n'a plus lieu d'être. Et d'ailleurs, c'est très mal d'influencer les autres quand on parle, c'est très très mal, on vous le dit souvent ça, il ne faut pas influencer les autres. C'est ça la démocratie, telle qu'on l'entend, c'est cette espèce d'équilibre, donc toutes les opinions se valent. Un autre point particulier de la démocratie, c'est qu'elle est considérée comme le sommet de l'évolution humaine. Elle devient donc le point à partir duquel on peut juger de toute autre organisation sociale, tout en distribuant des bons et des mauvais points aux autres systèmes sociaux. On le voit bien au quotidien. Et surtout, elle permet de considérer ce qui n'est pas démocratique comme, alors les termes peuvent varier, comme barbare, infra-humain, voire inhumain. Par exemple, on peut citer les termes employés pour parler de ce qu'on nomme aujourd'hui les terroristes. Souvent, on dit que ce sont des personnes inhumaines. On considère donc l'adversaire, celui qui n'est pas d'accord avec nous, comme quelqu'un d'inhumain, puisque l'humain, c'est la démocratie. Alors, ce faisant, on en vient à naturaliser la démocratie. On la considère comme un absolu non contestable. Et on en arrive au point que tout conflit n'est acceptable qu'à condition de ne pas remettre en cause les fondements de la démocratie. Et on voit là les limites du conflit en démocratie. Je vais vous lire la fin complètement de ce paragraphe sur la démocratie, justement. Voilà ce que nous disent les auteurs. La société démocratique moderne, qui se veut tellement réaliste qu'elle ne propose aux hommes et aux femmes qui acceptent le formatage que du bonheur, provoque en permanence une souffrance née de cette irréductible distance nous séparant de la norme. Et donc leur conclusion, c'est de dire « Le pari de l'émancipation ne peut passer que par la pratique et la pensée qui affirment le principe objectif selon lequel la société est tout le monde, l'homme et toute sa multiplicité, loin de toute exigence du devoir-être, nous obligeant à renier notre réalité au nom de la discipline. » Cette question de la multiplicité va revenir souvent dans l'ouvrage d'ailleurs. Alors, à la suite de ce chapitre sur la démocratie, suit un chapitre sur les conflits intérieurs, où les auteurs insistent sur le fait que notre société nous pousse à croire que le fait de vivre des conflits avec les autres ou avec soi-même serait le fruit d'une imperfection personnelle que nous pourrions corriger. Et ainsi, entretient l'illusion de la possibilité d'une vie sans conflit, de quiétude totale. Il dénonce en cela une certaine vision de la psychanalyse et de ses divers avatars psychologisants. Je vous rappelle que Miguel Benassayag est psychanalyste lui-même, donc il sait de quoi il parle. Enfin, le dernier chapitre de cette partie sur le paysage des conflits traite de la guerre et de la paix. C'est peut-être le chapitre le plus dérangeant, tellement nous avons intégré un idéal de paix perpétuelle. En effet, les auteurs affirment que loin d'être une maladie infantile de l'humanité, la guerre a une raison suffisante et donc tout ce qu'il faut pour continuer à exister. Considérer la guerre comme une anomalie devant cesser, une forme de conflit à éradiquer absolument, conduirait au contraire à la guerre sans limite. Ils nous disent « Conçue comme le moyen de préparer l'avènement de la paix, une telle guerre peut devenir la pire. » En effet, l'autorégulation de la guerre est possible quand elle ne le relève pas de l'affrontement entre humains et adversaires perçus comme non-humains. De nouveau, on revient à cette question-là. une guerre, un conflit doit pouvoir se vivre entre égaux. Donc l'autorégulation, elle vient donc d'un conflit nécessairement complexe et multiple qu'il faut accepter. Donc toute guerre au nom de la démocratie, qui, comme on l'a vu, considère tout ce qui n'est pas démocratique comme non humain, qui donc transforme la guerre en instrument de paix, entraîne une inflation sans limite de la violence. Et je crois que nous en avons quelques exemples. C'est l'exemple de la guerre juste, de la guerre au nom de tout un tas de valeurs. Dans une deuxième partie de cet ouvrage, les auteurs vont faire le parallèle entre ce refoulement du conflit dans nos démocraties et l'évolution vers des sociétés à la fois sécuritaires et à la fois de transparence. Je vous lis de nouveau un petit extrait. Nos sociétés sont entrées de façon durable, peut-être même définitive, dans l'époque de l'unification, de la négation de l'altérité et du conflit. Dans les problèmes que nous rencontrons, aussi bien au niveau collectif que personnel, les conflits ne sont plus reconnus en tant que tels. Mis à part ceux autorisés par le formatage, nous les refoulons, nous laissant envahir par l'idée que, dans l'idéal, toute opacité devrait être éradiquée de nos rapports. Nous laissant aussi et surtout envahir par le sentiment que, s'il y a de l'altérité, il ne peut s'agir que d'un ennemi potentiel. Au nom de la transparence et du consensus, le sens commun a en effet tendance à considérer aujourd'hui que nous savons toujours dans quelle intention nous agissons, que toute activité humaine renvoie par nature à une intention ou du moins à un but humainement compréhensible, que rien n'est fait hors de la visée d'une utilité, qu'enfin, la revendication de transparence, de soi à soi, des autres à soi, de soi aux autres, du pouvoir aux citoyens, etc., est légitime et sans complexité aucune. Certes, on admet que les citoyens ne sont pas tous d'accord avec telle réforme gouvernementale, mais c'est qu'ils n'ont pas compris la raison. Certes, nos opinions divergent, mais c'est que nous nous sommes insuffisamment expliqués. Le contraire d'un tel refoulement, l'acceptation du conflit, impliquerait la reconnaissance d'une multiplicité d'autres points de vue, non nécessairement assimilables à ceux des pauvres gens qui ne comprennent rien ni ne se comprennent, soit parce qu'ils auraient manqué d'informations, soit parce qu'on ne leur aurait pas suffisamment bien communiqué la norme. L'acceptation du conflit, en effet, implique que d'autres puissent s'opposer à un certain ordre social ou religieux, sans être pour autant des anomalies, des barbares à éliminer. Enfin, les auteurs vont insister sur deux points importants. Tout d'abord, la différence entre conflit et affrontement. Le conflit ne pouvant être réduit à la dimension de l'affrontement. Là, il y a un grand, long développement là-dessus. On y reviendra un petit peu. Et ensuite, à la notion de complexité, de multicausalité des conflits. Pour les auteurs, l'éloge du conflit renvoie à une fonction essentielle de celui-ci, sa fonction d'autorégulation de la violence. La résultante d'un conflit n'est en aucun cas sa résolution, mais bien plutôt ce qui permettra de le développer et de l'assumer. Alors, la dernière partie de l'ouvrage s'intitule « Vers l'agir ». Agir avec cette idée que la discorde, le conflit, ne périssent jamais, seront toujours présents. Agir non dans l'espoir d'une résolution définitive des conflits et des discordes, mais agir, comme disent les auteurs, en l'absence de toute solution. Alors là aussi, les auteurs nous bousculent. Ils nous disent, par exemple, face au monde, la réponse humaniste est au mieux impuissante, au pire aveugle à la complexité et à la multiplicité des humains. Et toujours sur cet aspect de l'humanisme, les conflits s'articulent toujours à partir de points de vue différents, objectifs et matériels. Or, l'humanisme propose un point de vue unique, niant que les autres puissent avoir d'autres points de vue. l'autre du conflit est nié en tant qu'humain authentique et complet, ou accepté au mieux comme le fruit d'une pathologie ou d'une ignorance qui signerait son incomplétude. C'est sur cette question de l'humanisme donc, que les auteurs nous bousculent pas mal, en reliant justement cet humanisme et cette tolérance, soi-disant, et la démocratie, et voir comment on a un petit peu emmêlé tout ça, et finalement jusqu'à considérer que tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui n'est pas démocratie selon nos normes, tout ce qui n'est pas dans la norme aussi, serait autre, serait barbare, serait l'ennemi. Encore un tout petit extrait. L'uniformisation disciplinaire de nos sociétés détermine ainsi un ensemble de pratiques fortement sacrificielles dans lesquelles on exclut toute altérité, tous ceux avec quoi l'on pourrait être en conflit pour créer du même bien discipliné. N'ont plus leur place les non-conformes, les non-viables, se contentera tantôt de guérir ou de discipliner, tantôt d'éliminer. Un ensemble qui va aujourd'hui, grosso modo, du fumeur au terroriste, en passant par toutes les figures possibles de la déviation et de la marginalité. Une telle entreprise d'unidimensionnalisation nécessite le sacrifice de tout conflit et un socle qui la fonde. Le modèle globalisant de l'utilitarisme, centré sur la possibilité que tout soit évaluable et quantifiable. C'est la production d'une société bien policée, dans laquelle, du même, des individus, non pas égaux mais identiques, désire ce qu'il faut désirer, là où et quand il faut le désirer. Et humanisme oblige toute autre culture ou mode de vie qui n'accepte pas ces normes globales et contraignantes de vie sera réprimée. Voilà pour cette partie. Cette société donc, qui refuse le conflit nous impose, nous disent les auteurs, une dictature de la résolution immédiate des problèmes. Le conflit n'existe pas, il y a seulement des problèmes techniques. De cette façon, on ampute progressivement et sans s'en rendre compte la société de tout ce qui demande du temps, de la maturation, de l'expérience. Ce qui ne peut se déployer dans l'immédiateté et demande la prise en compte d'un minimum de complexité et tout simplement rejeté. C'est la société de gestion et de résolution des problèmes techniques. Enfin, les auteurs terminent par un paragraphe intitulé « Résister, c'est créer ». Alors, avec ce paragraphe, ils reprennent bien sûr une phrase de Gilles Deleuze, mais ils reprennent également le titre d'un ouvrage donc, qu'a écrit Miguel Benassayag avec Florence Aubenas, qui est paru en 2002 sous ce titre. Et je vous lis donc ce dernier extrait qui se situe totalement à la fin de l'ouvrage. Comme le disait Gilles Deleuze, résister, c'est créer. Et créer, dans une époque obscure, c'est résister. Mais la résistance, conçue comme création, implique à son tour une pensée du conflit, le distinguant du pur affrontement. Comprendre comment on résiste dans notre époque obscure oblige à chercher par où passent les conflits structurant les situations afin de pouvoir développer de nouveaux possibles, susceptibles de déplacer le centre de gravité de ces situations trop superficiellement centrées sur l'homme. De nouveau, ils vont nous parler de la différence entre conflit et affrontement. L'avantage de l'affrontement, c'est qu'il donne le sentiment de clarifier le conflit. Mais on l'a vu, ce faux savoir occulte le fait que le conflit est une situation complexe, dans laquelle aucune des parties en présence ne possède à elle seule la bonne solution. Et c'est pour cette raison même qu'il y a à créer, à devenir. Un conflit est fait d'asymétrie. Ce sont les asymétries qui permettent de créer. Un conflit signifie qu'il n'y a pas de solution définitive. C'est cette absence même qui nous pousse à inventer des solutions locales. Croire que le conflit réside dans l'affrontement, c'est croire qu'en prenant le pouvoir et en éliminant l'ennemi, on va changer les choses, sans comprendre que le problème que l'on cherche ainsi à résoudre englobe la situation dans laquelle nous combattons. Voilà pour cet ouvrage, ce que je voulais vous en dire aujourd'hui. Alors un livre, encore une fois, qui interroge, qui bouscule, mais aussi un livre dynamisant, il faut bien le dire, facile d'accès, assez facile d'accès, qui nous permet aussi de réfléchir à nos façons d'agir et de lutter. Ben, j'espère vous avoir donné envie de découvrir cet ouvrage. Je vous rappelle son titre, « Éloge du conflit », écrit par Miguel Benazayag et Angélique Dailré, et il est paru aux éditions La Découverte en 2006. Bonne lecture et à bientôt.